Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements informés, entre autres. Parlement indonésien soutient le projet de loi sur la coopération en matière de défense avec 5 pays. Ministère du Droit et des Droits de l'Homme de Bali enregistre 199 enfants de sang mêlé demandant à devenir citoyens indonésiens. JP Bali met en œuvre un conseil vert pour accueillir le tourisme durable 2025. L'Indonésie a le potentiel pour devenir un leader régional des producteurs d'hydrogène et d'ammoniac. Commission 5 du DPR-RI approuve la ratification du 12e paquet de protocole AFAS. BPS Papua affirme que l'Australie sera la principale destination des exportations en mai 2024. Et ministre coordinateur de l'économie appelle à la contribution du Rochon à l'Indonésie. Mon cher joueur, voici le nouvel incomplet. 9 factions de la Commission 1 de la Chambre des représentants de la République d'Indonésie, DPR-RI, ont déclaré qu'elles soutenaient la ratification du projet de loi sur la coopération en matière de défense entre l'Indonésie et 5 pays, à savoir le Brésil, l'Inde, le Cambodge, la France et les Émirats arabes unis. Le projet de loi sur la coopération en matière de défense a été discuté mercredi lors d'une réunion de la Commission 1 de DPR-RI avec la ministre des Affaires étrangères Ratno Marsudi et le vice-ministre de la Défense Mohamad Herindra au complexe parlementaire de Senayan, Jakarta. Après une réunion avec la commission 1 du DPR-RI, la ministre des Affaires étrangères, Ratno Marsudi, a déclaré que la formation de cette coopération était de plus en plus importante car elle pourrait accroître la résilience nationale de l'Indonésie dans un monde de plus en plus rempli d'incertitudes et où les rivalités géopolitiques s'accentuaient. Raton a expliqué que la coopération en matière de défense serait menée sur la base des principes défendus par l'Indonésie, notamment une politique étrangère libre et active. La ministre Ratno a expliqué que la coopération de défense de l'Indonésie avec les cinq pays comprendrait, entre autres, l'échange de visites, le dialogue, le renforcement des capacités, la coopération dans les domaines de la science et de la technologie. Cette collaboration ouvre également des opportunités à l'Indonésie pour réaliser un développement conjoint et une commercialisation conjointe des produits de l'industrie de défense avec plusieurs pays. Le bureau régional du ministère du Droit et des Droits de l'Homme de la province de Bali a enregistré que pas moins de 199 enfants métis ont demandé à devenir citoyens indonésiens entre janvier et juin 2024. Chef du bureau régional de Bali, le bureau du ministère des Droits et des Droits de l'Homme, Pamela Yunidar Pasaribu Adempasar, a déclaré mercredi que son parti voulait s'assurer que chaque candidat s'engageait fermement à faire partie de la nation indonésienne. Ce nombre a augmenté par rapport à 2023 qui atteignait 67 demandes pour devenir citoyen indonésien. Pendant ce temps, en 2022, deux enfants ayant la double nationalité demanderont à devenir citoyens indonésiens. Elle a ajouté que sur les 199 enfants issus de mariages mixtes, 181 d'entre eux avaient déjà assisté au procès des citoyennetés et 18 autres attendaient le procès. Les résultats du procès de citoyenneté seront ensuite traités par le bureau régional de Bali du ministère du Droit et des Droits de l'Homme et transmis au ministère du Droit et des Droits de l'Homme à Jakarta pour une décision finale. Parmi ces nombres, le bureau régional de Bali du ministère du Droit et des Droits de l'Homme a enregistré une lettre de décision de devenir citoyen indonésien et 7 personnes ont prêté serment pour devenir citoyen indonésien. Il y a également récemment un procès pour la citoyenneté, à savoir 17 personnes vendredi 14 juin, qui étaient des enfants ayant la double nationalité du Japon, d'Allemagne, des États-Unis, d'Irlande et des Pays-Bas. L'Association des industries touristiques indonésiennes, JPI, Bali, applique un conseil respectueux de l'environnement ouvert pour accueillir la tendance du tourisme durable en 2025. Le président du JPI Bali, Ida Bagus Agung Parta Adnyana, Adempasar a déclaré mercredi qu'en 2024, la tendance du tourisme sera plus durable. Selon lui, plusieurs acteurs du tourisme à Bali commencent à mettre en œuvre des conseils respectueux de l'environnement s'adaptent aux tendances durables, notamment l'utilisation de savons ou de nettoyants portant des labels respectueux de l'environnement. En dehors de cela, les produits de consommation dans les hôtels comprennent de l'huile de kison qui porte un label respectueux de l'environnement. Parallèlement, en termes de carburant, les acteurs du tourisme à Bali commencent également à utiliser le gaz naturel liquéfié GNL. Il a expliqué que le conseil durable a été conforme au thème de promotion du tourisme de Bali 2025, qui mettait l'accent sur les conseils de préservation de la nature et de la culture. D'autre part, le gouvernement provincial de Bali a également imposé aux touristes étrangers une taxe de 150 000 de roupies par personne et par visite qui, au 17 juin 2024, avait collecté 117 milliards de roupies. Plus tard, les fonds collectés seront utilisés pour des questions environnementales, notamment la gestion des déchets et la préservation culturelle. Le gouvernement vise l'arrivée des touristes étrangers en 2024 pour atteindre 14,3 millions, dont 7 millions devraient être apportés par la province de Bali. Le ministère indonésien du tourisme et de l'économie créative met l'accent sur un tourisme qui adopte l'économie bleue et verte et l'économie circulaire. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Kemenko Marves, a déclaré que l'Indonésie a le potentiel pour devenir un leader dans la production d'hydrogène et d'ammoniac au niveau régional. Dans ses efforts pour atteindre zéro émission nette, l'Indonésie est considérée comme disposant d'un avantage concurrentiel dans la production d'hydrogène propre, ce qui peut apporter des avantages économiques importants. C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre coordinateur de la souveraineté maritime et de l'énergie du ministère coordinateur des affaires maritimes et de la pêche, Jody Mahardi, lors du sommet international indonésien sur l'hydrogène 2024 organisé par Petromindo.com et Onas Asia à Jakarta mercredi. Selon lui, l'hydrogène jouera un rôle important dans le système énergétique mondial, alors que divers pays s'efforcent de décarboner et de construire un écosystème de l'hydrogène. Les abondantes ressources en gaz naturel, la capacité de stockage du CO2 et le potentiel d'énergie renouvelable placent l'Indonésie comme un leader régional dans la production d'hydrogène. Jeudi a ajouté que l'Indonésie est géographiquement proche de pays qui ont une forte demande d'hydrogène propre, comme le Japon, la Corée du Sud et Singapour, qui représentent ensemble un marché de l'hydrogène d'environ 4 millions de tonnes par an. L'Indonésie possède les deuxièmes plus grandes réserves de gaz d'Asie-Pacifique et le troisième plus grand potentiel de stockage de CO2 de la région pour l'hydrogène bleu. Pendant ce temps, pour l'hydrogène vert, l'Indonésie possède le deuxième plus grand potentiel géothermique au monde et une capacité potentielle d'énergie solaire de plus de 200 gigawatts. La commission 5 de la Chambre des représentants de la République d'Indonésie, DPRRI, a approuvé la proposition du ministère des Transports de ratifier le protocole du 12e paquet d'engagement en matière de services de transport aérien contenu dans le cadre de l'ASEAN dans le secteur des services ou l'accord cadre de l'ASEAN sur le service AFAS. 15 décembre 1995, le président de la commission 5 du DPRRI, Lazarus, à l'issue d'une réunion de travail qui a été suivie en ligne à Jakarta mercredi, a révélé qu'après que l'approbation ait été déterminée par la commission 5, les dirigeants du DPRRI le transmettrait au président Joko Widodo pour que ce règlement ait ensuite force de loi à travers le règlement président. Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a révélé que jusqu'à présent, le 12e paquet du protocole AFAS a été ratifié par 4 pays de l'ASEAN, à savoir le Laos, Singapour, le Vietnam et la Malaisie. La ministre des Transports a expliqué que la ratification du 12e paquet à protocole AFAS pourrait apporter des avantages à l'Indonésie, notamment l'ouverture d'opportunités d'investissement et d'opportunités d'emploi plus larges dans le domaine des services de soutien au transport aérien. L'accord de AFAS est le protocole parent pour la mise en œuvre des engagements dans le secteur des services qui se compose de 3 groupes distincts de protocoles, à savoir les services de soutien au transport aérien, les services financiers et autres services. Le Bureau central des statistiques BPS de Papouasie a déclaré que l'Australie était le premier des quatre plus grands pays de destination des exportations de la province de Papouasie, d'une valeur de plus de 3,8 millions de dollars américains, soit 60,81%. Le chef du DPS Papouasie, Adriana Elena Carolina Ajaipura, a déclaré mercredi que les trois autres pays étaient la Corée du Sud, 25,73%, la Nouvelle-Zélande, 5,95%, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 3,14%. Sur la base du suivi du BPS, les exportations de la Papouasie en mai 2024 ont atteint 6 381 millions de dollars américains, soit une augmentation de 89% par rapport à avril 2024. De la gaz province de Papouasie consiste en paroles et gaz bois et produits en bois, poissons et autres animaux aquatiques AS03 et autres produits non pétroliers et gaziers. Elena a ajouté que cumulativement, les exportations totales de la Papouasie en janvier-mai 2024 s'élevaient à 34 909 millions de dollars américains, soit une augmentation de plus de 50% par rapport aux exportations totales de janvier 2023, qui était évalué à 23,5 millions de dollars américains. La croissance économique de l'Indonésie reste forte malgré le ralentissement économique mondial. Le gouvernement a adopté un certain nombre de stratégies, notamment en encourageant la consommation et l'investissement. Le ministre coordinateur des affaires économiques, Erlang Hartanto, lors du dîner de la Chambre de commerce européenne ou Eurochambre à Jakarta, a déclaré mercredi 19 juin, conformément aux efforts visant à améliorer le climat d'investissement, l'Indonésie a pris des mesures pour augmenter les incitations fiscales pour attirer investissements étrangers et nationaux en Indonésie, selon le ministre de l'Union européenne, est l'une des parties qui joue un rôle important dans le commerce extérieur et les investissements indonésiens. En 2023, le commerce total s'élèvera à 30,8 milliards de dollars américains et les investissements de l'ONU européen en Indonésie au cours des cinq dernières années atteindront 12,1 milliards de dollars américains. Erlang a ajouté que le thème du dîner Igniting Two Decades of Excellence était conforme au parcours de transformation de l'Indonésie pour créer une dynamique vers une Golden Indonesia 2045. Il espérait que l'Union européenne, en particulier la Chambre de commerce européenne, pourrait devenir le partenaire de l'Indonésie dans la réalisation de cette vision en fournissant un accès au marché, à la technologie et à de nouvelles opportunités d'investissement grâce à une forte collaboration. Bon, ce jeu est tard, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, no. Chers auditeurs, bonsoir. Voici le cadre diplomatique et pour le titre, l'ambassade d'Indonésie à Addis Abeba, en collaboration avec l'université Arambi, lance un livre sur le tourisme et les médias. L'ambassade de la République d'Indonésie à Addis Abeba, en collaboration avec l'université de Arambi, a lancé deux livres sur le tourisme et les médias à Adama, samedi 15 juin dernier. Dans un communiqué de presse reçu par Antara à Jakarta dimanche 16 juin, l'ambassadeur d'Indonésie en Éthiopie, Al-Bushra Basnour, a déclaré que le livre intitulé « Connectivité mondiale et développement économique et médias et diplomatie publique pour la connectivité internationale » est un recueil d'écrits contenant des réflexions, suggestions et idées d'universitaires, de journalistes, de jeunes et de personnalités de premier plan d'Indonésie et d'Éthiopie. Selon l'ambassadeur Bushra, la publication de ce livre est une forme de diplomatie publique indonésienne qui vise à encourager le développement d'une connectivité et d'une coopération plus large entre les acteurs non gouvernementaux d'Indonésie et d'Éthiopie, en particulier entre les écrivains. L'ambassadeur Bushra a déclaré que les deux livres soulevaient délibérément des problèmes mondiaux afin qu'ils soient lus par les peuples indonésiens et éthiopiens ainsi que par le public de divers autres pays, afin qu'ils connaissent les principaux enjeux du tourisme et des médias dans le développement mondial. De cette manière, les pensées et les opinions des citoyens indonésiens et éthiopiens pourront devenir une référence pour la communauté mondiale. Le lancement du livre et la discussion ont réuni environ 150 étudiants, les universitaires, les jeunes leaders éthiopiens, les entrepreneurs, les journalistes, les membres de la Chambre des représentants et les responsables du gouvernement éthiopien. L'événement de lancement du livre a ensuite été suivi d'un événement de discussion à l'université de Arambi. Depuis 2020, l'ambassade d'Indonésie à Addis Abeba a publié 10 livres. Trois livres ont été écrits par l'ambassadeur Al-Bushra Basnour, tandis que les 7 autres livres sont un recueil d'écrits d'universitaires, de journalistes, de jeunes et d'autres professionnels d'Indonésie et d'Éthiopie. Chers auditeurs, c'était l'Acquis diplomatique pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 20 juin 1991. Le Parlement allemand décide de déplacer la capitale de Bonn à Berlin. Initialement, Berlin était divisé en deux, à savoir Berlin-Ouest et Berlin-Est, après la Seconde Guerre froide. Berlin-Est était contrôlé par l'Allemagne de l'Est avec la capitale Bonn. Pendant ce temps, Berlin-Ouest était contrôlé par l'Allemagne de l'Ouest avec la capitale Berlin. À cette époque, le mur de Berlin était érigé pour séparer les côtés Est et Ouest. En 1989, avec la fin de la guerre froide, le mur de Berlin tombe définitivement. Un an plus tard, l'Allemagne s'unit et fait de Berlin sa capitale. Cependant, le déplacement de la capitale de Bonn à Berlin vient d'avoir lieu à la fin de 1999. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés. La Journée mondiale des réfugiés est une journée internationale instituée par les Nations Unies pour honorer les réfugiés du monde entier. La Journée mondiale des réfugiés a été célébrée pour la première fois le 20 juin 2001 pour commémorer le 50e anniversaire de la Convention de 1951 relativement au statut des réfugiés. Initialement, cette communication était connue sous le nom de Journée des réfugiés africains avant que l'Assemblée générale des Nations Unies la désigne officiellement comme Journée internationale en décembre 2000. La communication est conçue pour offrir une opportunité importante aux demandeurs d'asile et aux réfugiés d'être vus, entendus et valorisés par les communautés où ils vivent. C'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour l'arbre suivant, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « KLHK a déclaré que l'Indonésie avait brisé le mythe avec la restauration de 5,5 millions d'hectares de tourbe. Le ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, a déclaré que l'Indonésie avait réussi à briser le mythe selon lequel les tourbières dégradées ne peuvent pas être restaurées, faisant référence au succès remporté jusqu'à présent dans la restauration de 5,5 millions d'hectares de tourbières. Le directeur général de contrôle de la pollution et des dommages environnementaux, PPKL de KLHK, Sigit Rilientoro, a déclaré mercredi que l'Indonésie avait connu de graves incendies de forêt et de terre à plusieurs reprises, notamment en 2015, survenu sur 2,6 millions d'hectares de terre. À ce sujet, a-t-elle déclaré, au cours des 10 dernières années, le gouvernement indonésien a lancé une stratégie visant à prévenir et à restaurer les écosystèmes de tourbe endommagés. En dehors de cela, en tenté des poursuites judiciaires aux individus et aux entreprises impliquées dans les dommages causés à l'écosystème de la tourbe dans le pays. Jusqu'en 2023, le ministère de l'Environnement et des Forêts a réalisé Angnang Bangter de 300 unités hydrologiques de troupes au KSG d'une superficie de 15,42 millions d'hectares sur un total de 24,67 millions d'hectares, soit 63% des KSG ont été inventoriés. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a également procédé à la restauration des écosystèmes de troupes, notamment sur le plan hydrologique dans les zones de concession atteignant 3,9 millions d'hectares répartis dans 73 plantations forestières industrielles et de 159 plantations de palmiers à huile. Sigrid Kliantoro a souligné que le gouvernement mène également des travaux de restauration dans les zones en dehors de la concession à travers le programme du village indépendant Prend Soin de la Troupe qui collabore avec 272 villages avec une zone d'humidification de troupes atteignant 51 000 hectares jusqu'en 2023. Il a également souligné que l'Agence de restauration des tourbières et des mangroves, ou BRGM, avait indiqué 1,6 million d'hectares qui avaient été restaurés jusqu'en 2023. Le BRGM a précédemment indiqué avoir procédé à la restauration de troupes sur environ 1,8 million d'hectares de terre de 2016 à 2023. Pendant ce temps, le secrétaire principal de l'Agence de restauration de la troupe et des mangroves, BRGM, Ayu Dewi Utari, a déclaré que dans ses efforts de restauration de la troupe, le BRGM adopte une approche des 3R, à savoir la réhumidification ou la réhumidification des terres, la revégétalisation ou la replantation et la revitalisation économique des communautés autour de l'écosystème de troupe. La réhumidification est réalisée en construisant des blocs de canaux, des puits forêts et divers autres efforts pour réhumidifier le terrain. En outre, la replantation des plantes adaptées à l'écosystème de troupes favorisera également l'amélioration du bien-être des résidents locaux. En particulier, Ayu Dewi Utari expliquait que le BRGM continue de mener des actions de socialisation pour changer l'habitude de brûler les terres en vue des activités agricoles. C'est Rita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Tak kusangka kita sama. bercerita cinta kita.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez les tards, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
C'est le top Beach Atlas, une start-up basée à Londres qui se concentre sur l'information sur les plages du monde entier, a lancé son Global Beach Award 2024 qui répertorie les 100 plus belles plages du monde. L'Indonésie, avec ses riches ressources naturelles, a réussi à inscrire de ces plages sur la liste. La plage Klinking à Klungkung, Bali, se classe 34e et la plage Double 6 à Seminyak, Bali, 77e. L'évaluation des plages a été réalisée grâce au vote d'experts de voyage et d'influenceurs sur la base de certains critères. Sejurita à la 77e place, on trouve la plage Double 6 qui est l'une des destinations balnéaires de Bali. La plage Double 6 est célébrée pour son sable doré, immaculé et son eau de mer claire. La plage offre un panorama charmant, surtout au coucher du soleil. Une série d'activités touristiques amusantes peuvent être réalisées ici. Pour ceux qui aiment le surf, il y a des vagues assez grosses, donc vous pouvez surfer ici. Pour ceux d'entre vous qui n'apportent pas de planches de surf, ne vous inquiétez pas, car il existe un point de location de planches de surf. Sejurita, pour ceux d'entre vous qui aiment les activités qui font monter l'adrénaline, vous devez essayer le saut à l'estatique. Vous plongerez d'une hauteur jusqu'à toucher l'eau de mer. Ce sera une expérience inoubliable. En plus d'essayer des activités qui font monter l'adrénaline, vous pouvez profiter de la vue magnifique sur la plage Double 6 en faisant de l'équitation. Profitez de sa beauté à cheval créera certainement une expérience mémorable. Il y a aussi des cafés et des restaurants pour manger et se détendre tout en profitant du magnifique coucher du soleil sur la plage Double 6. C'est Jurita, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Start to sing.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter le 46e Festival des Arts de Bali 2024. Le 46e Festival des Arts de Bali 2024 s'est ouvert à Denpasar, Bali le 15 juin. C'est le plus grand événement artistique de Bali qui vise à préserver, développer et promouvoir les arts de l'île des îles. L'ouverture du Festival des Arts de Bali 2024 a été marquée par le battement de Kulkul par la vice-ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, Madame Angela, le ministre de ATEP RBPN Agus Harimurti Yudhoyono, le ministre du PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati et le gouverneur par intérim de Bali SM Mahendra Jaya. Kulkul est un outil de communication traditionnelle du peuple balinais sous la forme d'un instrument sonore généralement en bois ou en bambou et un objet laissé par leurs ancêtres. Dans chaque organisation traditionnelle de Bali, il y a au moins un kulkul. Après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture du Festival 2024, la vice-ministre du Tourisme et des Affaires Créatives, Madame Angela, a déclaré que cet événement annuel qui a lieu depuis 1979 était un moyen efficace de promouvoir le tourisme à Bali à travers les arts et la culture. Elle espère également que cet événement pourra attirer des visites touristiques afin d'encourager la réalisation des objectifs des touristes étrangers et nationaux cette année. Comme les années précédentes, l'ouverture du Festival des Arts de Bali a été remplie de pit aya ou le défilé qui a commencé par la représentation gamelan de la procession Adi Merdanga et la représentation de la danse Siva Nataraja comme symbole du festival de l'Isi Denpasar. Et ensuite, suivi des défilés culturels de 9 districts ou villes de Bali. Ce défilé illustre la diversité du potentiel et l'enthousiasme du peuple balinais à soutenir le renforcement et l'avancement de la culture balinaise. Après la cérémonie d'ouverture, la Semaine des Arts de Bali aura lieu au Taman Verdi Budaya Bali ou le Centre d'Art de la ville de Denpasar. Le 46e Festival des Arts de Bali 2024 a lieu du 15 juin jusqu'au 13 juillet 2024 et réunira plus de 13 000 artistes et 285 institutions artistiques telles que des studios, des fondations et des villages de Bali. Le Festival des Arts de Bali qui porte cette année sur le thème Jana Kerti Paramguna Wirakrama est inclus dans le top 10 des événements de charisme indonésien du ministère du Tourisme et de l'Économie Créative en 2024. En plus de soutenir au Parc Wedi Budaya Bali, la Semaine des Arts de Bali 2024 s'est également tenue autour du monument de la lutte du peuple de Bali, Bajra Sandi. Les autres activités pendant le Festival des Arts de Bali sont Reka Sadana, ou la performance, Usawa, ou le défilé, Bimbakara, le concours, Kandarupa, ou l'exposition, Kriyaloka ou l'atelier, Widyatula Urasarasehan E Adi Suaka Nugraha Pur Les Amateurs des Arts. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Chers auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical, PENA. Avec moi, Audrey, je vais vous présenter une chanson du groupe musique Bragi. Bragi est un groupe de musique indonésien dirigé par trois frères, à savoir Rinaldi Hutomo Wahab, où Aldi piano, clavier, chante. Randy Krishna, où Randy basse. Reza Aryo Bima, Weicha, batterie et chant. Plus Erwin Indrawan ou Erwin, guitariste, et John Sebastian ou John Harmonica. Le nom Bragi a été choisi sur suggestion d'Echa. Après avoir longtemps lutté pour trouver un nom rapporté pour leur groupe de musique. En 1997, Bragi sort son premier album intitulé Janji. Cet album se compose de 9 chansons et présente la chanson Janji comme chaque phare. La chanson Janji raconte l'histoire de quelqu'un qui regrette ses erreurs du passé. Maintenant, il essaie de convaincre et promet qu'il ne fera pas d'erreur et promet d'être toujours aux côtés de son partenaire pour toujours. Bon, chers auditeurs, voici le groupe de musique indonésien Bragi va chanter une chanson intitulée Janji. Bonne écoute. Thank you.
kasih datangkan rasa ragu di hatimu. Cinta yang kini ku rasakan selalu ingin ku berikan semua kepadamu. Apa yang harus ku buat lagi untuk beri arti tulusnya cintaku kepadamu. Lupakan sudah masa lalu, tak akan ada lagi di hati. Hanya janji yang ku berikan, ku ingin selalu bersama dirimu. Percaya
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz.
Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.